La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de cette mêlée de l'info, la dernière avant la longue parenthèse de juillet-août. Vous retrouverez ensuite cette émission à la rentrée. Voici les deux invités de ce numéro qui clôture la saison. Je salue tout d'abord Hélène Cabanne, conseillère municipale de Toulouse, conseillère métropolitaine de Toulouse Métropole, membre du parti Les Écologistes. Et je salue aussi Lucas Duval, membre de la LICRA et du Parti Radical de Gauche. Bienvenue également à tous les deux. Merci d'avoir accepté de participer à ce numéro. La France suffoque sous une canicule aussi longue que prématurée et la question de la climatisation est devenue, depuis le début de la semaine, un enjeu politique qui donne lieu à de nombreuses discussions à l'Assemblée et aussi dans les médias. Pour certains, il faut d'urgence la généraliser sur l'ensemble du territoire et même lancer un plan national massif comme le préconisent Marine Le Pen et le Rassemblement National. Pour d'autres, sans rejeter la nécessité de climatiser les établissements accueillant les personnes les plus vulnérables, là on parle des EHPAD, des crèches, des écoles, des hôpitaux, la généralisation de la climatisation ne ferait qu'aggraver les conséquences du réchauffement climatique, entre autres dans les grandes villes. Alors vous concernant, après avoir suivi les débats sur le sujet ces derniers jours, pris connaissance des propositions des uns et des autres, quelle est votre vision concernant le recours à la climatisation et quelles solutions conviendrait-il de mettre en œuvre selon vous pour faire face du mieux possible à ces périodes de canicules répétées, de plus en plus longues et de plus en plus précoces? Hélène Cabanne, je sais que les écologistes réfléchissent à ces questions depuis longtemps.
Oui, depuis longtemps. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre invitation. J'ai envie, avant de répondre à votre question sur la climatisation, d'abord de reposer certaines choses et à faire certains constats. D'abord, il faut dire que cette canicule que nous subissons aujourd'hui, ça ne vient pas comme ça de nulle part. C'est pas un coup de malchance qui arriverait sur la France, même plus largement sur l'Europe en ce moment. C'est la conséquence de choix politiques et économiques qui ont été faits depuis de nombreuses années maintenant pour la France, continuer dans un système de production et de consommation dont on sait, au moins depuis les années 70, que cela va nous amener à un réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui concrètement dans notre chair et qui nous touche dans notre santé. Il faut toujours rappeler qu'une canicule, c'est toujours un pic de surmortalité. On a l'exemple de la canicule de 2003, où on avait été quelque part, quand je dis on, c'est les pouvoirs publics ont quelque part été surpris.
Pris de court,
en août 2003, où on rappelle d'urgence des ministres qui sont à droite à gauche en vacances, et ce sont les pompes funèbres qui alertent en disant « mais on n'a jamais vu autant d'essais sur une période comme celle-là ». Et on se rend compte que la chaleur tue. La chaleur tue, et de 2003 jusqu'à aujourd'hui 2026, plus de 20 ans plus tard, Ben, force est de constater que les conclusions et les conséquences de cette canicule de 2003 n'ont clairement pas du tout été entendues. Encore moins que les alertes des scientifiques et des écologistes qui, depuis les années 70, hein, depuis
René Dumont,
qui buvait son verre d'eau, le rapport de 72 halte à la croissance, on explique très clairement par des modèles que si on continue à ce rythme-là de consommer autant d'énergie fossile, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, donc énergie, pétrole, gaz, charbon, on va vers une augmentation de la température globale sur Terre avec des phénomènes extrêmes, comme on le connaît aujourd'hui, de canicule. Donc, il ne faut pas dire que c'est un coup de malchance qui nous arrive aujourd'hui. C'est la conséquence de l'inaction politique depuis plus de 50 ans. Et aujourd'hui, moi je suis quand même un peu en colère quand je vois qu'on a un parti comme mené par Madame Le Pen, Jordan Bardella, Rassemblement National, qui se réveille parce qu'il fait chaud et dit « on va mettre la clim ». Nous les écologistes, ça fait 50 ans qu'on travaille sur ces sujets, ça fait 50 ans qu'on explique que un certain nombre d'actions, je vais y revenir, doivent être mises en place de manière sérieuse, pas pour se rafraîchir un jour ou deux parce qu'en ce moment il fait chaud, pour sauver l'humanité sur Terre. On en est là aujourd'hui quand même, je pense qu'il faut, je pèse mes mots, on en est là, et pas que l'humanité, parce que dans cette aventure, on est en train d'embarquer toutes les espèces, autres espèces animales que la nôtre, le vivant en général, les arbres, tout le vivant qui est autour de nous. Et on ne peut pas s'extraire, contrairement à ce que l'on croit, on ne peut pas s'extraire, nous, espèces humaines, du sort de tous ces animaux et de toutes ces espèces végétales. Si elles meurent, nous mourrons aussi. Nous le voyons aujourd'hui avec la diminution de la biodiversité qui nous impactera, qui nous impacte de toute façon, tôt ou tard. Donc dans cette aventure, ce n'est pas juste une question de diminuer de quelques degrés et de mettre la clim partout comme le propose l'extrême droite. C'est comment on fait en sorte que l'espèce humaine et l'ensemble des animaux et végétaux qui constituent cette planète puissent continuer à vivre à peu près correctement dans 25 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, où l'été et la période que nous vivons actuellement sera la norme. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte, mais toutes les projections avec l'augmentation des températures vont vers des niveaux où ça va être très compliqué de vivre. On en est là. On est vraiment sur ces questions majeures. Donc la climatisation pour faire diversion, moi ça m'agace, si vous voulez. Alors, Marine Tondelier a répondu là-dessus. Évidemment qu'il y a des endroits qui vont et qui doivent être climatisés. Des hôpitaux, des établissements pour personnes âgées, les personnes qui sont fragiles, qui doivent être protégées, des lieux
écoles,
de fraîcheur,
des
écoles, des crèches, bien évidemment. Mais la solution, ce n'est pas la clim partout, tout le temps non plus. Inspirons-nous là aussi des choses qui se sont faites par le passé. Il y a des pays qui connaissent des chaleurs depuis très longtemps, et la clim n'existait pas. Et on savait construire, et on savait bâtir, et on savait faire des habitations qui sont isolées, qui permettent de vivre malgré ces températures très fortes. Donc, inspirons-nous dans la construction de ce qui se fait dans d'autres pays. Ayons la modestie d'aller voir ce qui se fait dans les pays du Sud, quand on dit plus globalement, hein, parfois avec un peu de condescendance, mais la réalité, c'est quand même ça, c'est qu'eux, ils ont des choses à nous enseigner, à nous, pays industriels et capitalistes, sur la manière de bâtir, sur la manière de construire. Et donc, ça ne sert à rien, très honnêtement, de mettre la clim partout si vous n'isolez pas correctement vos bâtiments. On va gaspiller de l'énergie pour rien. C'est comme allumer un feu de cheminée et laisser les portes ouvertes. C'est pareil. Voilà.
Alors, après cette longue intervention d'Hélène Cabat, mais qui pose bien, je trouve, la question à laquelle nous sommes confrontés, Lucas Duval, d'abord, est-ce que sur les constats, vous êtes aussi alarmiste qu'elle ?
Oui, déjà merci pour l'invitation. Évidemment, je ne peux qu'être alarmiste. Moi, j'ai 26 ans, la canicule de 2003, j'en ai aucun souvenir. Hein.
Mais j'imagine.
Mais en fait, dans ma vie, je peux dire qu'en tout cas, de ce que je me rappelle, j'ai toujours connu chaque été des canicules. Et quand mes parents me disent qu'eux, ben, effectivement, ils connaissaient une canicule, tous les deux, trois ans, quand ils étaient jeunes, etc. En fait, ce qui moi, entre guillemets, est ma norme, eux, ça relève de l'exceptionnel. Ça montre bien qu'il y a eu quand même un glissement, un réchauffement global, en tout cas, de la température, et que, je me dis, j'ai encore, en tout cas, je l'espère, une longue vie devant moi. C'est peut-être un des étés les plus frais que je vais vivre de ma vie. Et se dire que Finalement, là, les températures qu'on connaît, 40 degrés, 41, 42, eh bien, ça sera finalement un jeudi comme un autre, dans 20 ans, 25 ans. Ça fait, j'allais dire, froid dans le dos, mais non, justement. Et ça pose quand même, on va dire, le constat. Les scientifiques, Hélène l'a dit, hein, n'ont cessé d'alarmer sur ce sujet-là.
Harold Taziev, par exemple, en parlait dès les années 70.
Oui, mais
ça faisait sourire à l'époque.
Mais le vrai problème, c'est qu'en fait, nos politiques, les personnes qui nous dirigent, que ce soit au niveau national, au niveau municipal, au niveau départemental, régional, souvent, et c'est, je le regrette, ne gouvernent pas par la raison, mais par des idées ou des idéologies. Et ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui viennent reprocher aux personnes comme les écologistes, comme les radicaux de gauche. On n'a pas inventé l'écologie, mais presque. À La Rochelle, Michel Crépeau a quand même fait énormément au niveau de l'écologie municipale avant même qu'on se pose la question. Ils viennent dire que voilà, les personnes qui parlent de réchauffement climatique, qui parlent d'adaptation, de bifurcation écologique, parce que je pense qu'on en est là, en tout cas c'est ce qui est nécessaire de faire, eh bien, sommes-nous les idéologues? Non, nous on est les personnes rationnelles, c'est-à-dire que voilà, on nous dit il y a des faits, voici quelques solutions qui pourraient être mises en place, on ne vous dit pas que ça va tout régler du jour au lendemain, mais on vous dit qu'en tout cas peut-être qu'on pourra un peu mieux vivre, un peu mieux s'adapter au réchauffement climatique. Ensuite, concernant la climatisation, bon, évidemment, là où c'est nécessaire, oui, il faut mettre la climatisation. C'est pas normal que dans une salle de cours, il fasse 40 degrés. C'est pas normal que dans un hôpital, j'ai vu, c'est à Paris, je crois, qu'il n'y avait pas la climatisation. Le fils d'une personne âgée a décidé donc d'acheter un bloc de clim mobile et on lui a refusé de le brancher parce que c'était pas aux normes administratives de je sais
ah
pas
oui,
quoi.
Ben là, on va se heurter effectivement.
Et en fait, on se heurte à des normes qui en fait sont très très belles sur un papier.
Qui sont peut-être dépassées par rapport à la situation.
Et qui sont sûrement dépassées parce qu'en fait, même si elles ont été écrites il y a 5 ans, ces normes, elles sont déjà obsolètes. Parce que si on se base sur ce qu'il y a 5 ans, ben on est déjà en retard. Et en fait, c'est une fuite en avant, toujours. Et en fait, la climatisation, en fait, on peut pas dire que c'est la solution magique. Parce que la physique, la thermodynamique nous dit, oui, c'est très bien. Peut-être qu'on va rafraîchir l'intérieur des bâtiments. Mais on va pas juste prendre la chaleur qu'il y a la chaleur qu'il y a à l'intérieur pour la mettre dehors. On va aussi créer de la chaleur en, du coup, extrayant cette chaleur de l'intérieur. Et puis, concernant les bâtiments, concernant le bâti, oui, on a sûrement énormément à apprendre des pays du Sud.
De ça, qui vivent ça au quotidien,
absolument, mais
presque
faut,
tout au long de
mais
l'année.
Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, des bâtiments qui sortent de terre, tout neufs, qui sont aux normes RT 2020 ou RE 2020, je ne sais plus, 2012, je n'ai pas le nom exact, et qui en fait sont très très bons sur le DPE, vont être des bouilloires thermiques.
Vous appelez le DPE pour ceux qui
le diagnostic de performance énergétique. Vous savez, c'est les lettres de A à G qui viennent dire si le logement est bien isolé ou pas. Et en fait, le logement, il pourra avoir un classement A, B, C, qui est aujourd'hui dans le haut du chapeau, mais en fait pourra quand même être une bouilloire thermique. Parce qu'aujourd'hui, les performances énergétiques, en tout cas en France, en Europe de manière générale, sont basées sur le fait de retenir la chaleur. C'est-à-dire que nous, on veut que quand on chauffe l'hiver, eh bien, la chaleur ne s'échappe pas par les toits et les fenêtres, pour faire ça assez simplement. Eh bien, peut-être que ce DPE, il faudrait le revoir vis-à-vis de la réalité aujourd'hui et se dire que oui, c'est bien effectivement de garder la chaleur à l'intérieur, mais comment est-ce qu'on fait aussi pour que la chaleur ne rentre pas à l'intérieur du bâtiment. Moi, je suis dans un appartement où il fait, enfin, où ça a été rénové, ça doit être peut-être classé C, ce qui n'est pas mauvais à Toulouse, ce qui est même très bien à Toulouse. Et il fait 30 degrés.
Le soir, quand vous rentrez chez vous.
Mais en fait, on est rentré d'une semaine de vacances, il y avait tout fermé. Mais alors, tout fermé, calfeutré, tout ce qu'on voulait. Il faisait 30 degrés dans l'appartement.
Une fois que c'est rentré, la chaleur.
Voilà. Mais c'est bien isolé l'hiver, c'est super, on n'a pas froid, ça c'est vrai. Mais sauf que la réalité des choses, c'est que l'été, bien, on surchauffe.
Ouais. Alors, sur ces questions-là de. Certains donc parlent d'un plan national climatisation. Bon, vous vous êtes exprimés tous les deux sur cette possibilité. On a bien compris. Par contre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur le plan national, justement pour revoir l'isolation des bâtiments avec des solutions peut-être qui pourraient privilégier une sorte de climatisation naturelle, je ne sais pas si le mot est adapté, mais qui permettrait de faire circuler l'air la nuit dans les bâtiments, et puis aussi peut-être qu'il faut désartificialiser, on a commencé, oui. Mais peut-être augmenter la cadence, et puis planter des arbres. Mmh. Hélène Cabam, vous avez sans doute d'autres solutions chez les écologistes.
Oui, il y a tout un panel de solutions, mais il ne faut pas, une fois encore... Dans cette polémique sur la clim, parce que finalement, ce sujet de clim s'impose, alors que ce n'est pas ça le sujet.
Ça s'impose en urgence.
S'impose en urgence parce qu'il y a l'idée qui est sortie là, comme ça, par le Rassemblement National, un petit peu pris par surprise, parce qu'il ne savait pas quoi dire. Parce que jusqu'alors, quand même, il ne faut pas oublier qu'il disait que le GIEC était alarmiste, qu'il ne fallait pas trop s'en occuper, que le mode de vie des Français n'était pas négociable, hein, en empruntant les termes de Donald Trump et de la droite états-unienne. Bon, si on les écoutait, il n'y avait pas de problème circuler, il n'y a rien à voir. Et puis dès qu'il fait chaud, là, quand même, ils se rendent compte qu'il va bien falloir trouver quelque chose et dire quelque chose. Donc on lance l'histoire de la clim. Mais attention, la clim, là aussi, c'est en ça où je trouve que le Rassemblement National est un parti qui n'est pas sérieux même. Au-delà de ses idées, de son idéologie que je défends, que je combats profondément et que je ne défends pas, justement, c'est pas un parti sérieux. Pourquoi ? À une problématique aussi complexe que le dérèglement climatique, ils vont nous faire croire qu'en deux jours, on a la solution miracle qui s'appelle la climatisation et que personne n'y avait pensé pendant 50 ans. Non, mais ça prête à rire presque, honnêtement. Bon, soyons un petit peu sérieux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la clim dans certains endroits, évidemment, ne peut pas être contre de façon...
Non, parce qu'encore une fois, il y a une urgence.
On en a besoin.
Pour certains
on est d'accord. Hein. Sauf que là, on répond à une problématique à l'instant T, au moment où il fait chaud. Quand il va refaire les températures normales, tout le monde va oublier, on n'en parlera plus. Et c'est là où les écologistes sont là, et c'est là où on va revenir, et c'est là où on va rappeler qu'est-ce qu'on fait. On change notre droit du travail. La proposition qui a été faite par Marine Tondelier de faire un congé climatique, 5 jours par an. Ça se fait déjà en Espagne, ça a déjà expérimenté. La proposition de loi va être déposée par le groupe écologiste à l'Assemblée nationale. On va parler avec les syndicats de salariés, les syndicats d'employeurs également. Il faut savoir que contrairement au MEDEF qui pour l'instant semble pas trop enclin à aller vers ce projet, d'autres entrepreneurs, d'autres petites entreprises, PME, petites et moyennes entreprises, nous contactent et nous disent « mais vous avez raison parce que nous on ne sait plus comment faire ». Vous avez quand même en tant qu'employeur l'obligation de veiller à la santé de vos salariés. À partir de quel moment, à partir de quel degré, à partir de vous considérez que une personne qui est travaille dans le BTP, qui travaille sur les toits, qui fait des travaux importants physiques est en danger. À partir de quel moment on dit bah là non c'est plus possible, on faut arrêter. Bon. Le congé climatique peut permettre, par exemple, à ce moment-là, de 5 jours par an, la proposition est sur la table, je pense qu'il faut que ce soit affiné, mais de dire qu'il faut adapter notre code du travail à ces événements climatiques-là. Ça peut être la chaleur l'été, mais ça peut être des choses toutes bêtes. Vous êtes victime d'une inondation catastrophique chez vous, j'imagine bien que le jour même, vous ne pouvez pas aller travailler. Donc vous pouvez poser, vous, 1, 2 ou 3 jours de congé climatique pour nettoyer votre maison, par exemple.
Donc en fait, c'est, entre guillemets, une enveloppe de congé dans laquelle on peut piocher.
C'est ça.
Par exemple, un jour où effectivement il y a 40 degrés, on est couvreur, on ne va pas aller travailler
bien
sur
sûr.
Les toits quand il y a 40 degrés, automatiquement on fait valoir ce congé auprès de son employeur qui ne peut pas le refuser.
Je ne sais pas trop encore comment ça va fonctionner
ça
peut être ça. L'idée c'est quand même qu'il faut faire évoluer nos sociétés, là c'est sur le code du travail, mais c'est pas que ça, la situation est tellement complexe et ça nous impacte et ça nous percute complètement, les êtres humains, je l'ai dit, les animaux, la nature, les infrastructures, vous avez vu qu'il y a un nombre incroyable de trains qui ont été annulés. Ils ont été annulés pour plusieurs raisons, mais en particulier, c'est parce que des rails, par exemple, se dilatent et ça devient dangereux de faire circuler des trains sur des rails qui sont surchauffés. Il y a énormément d'impact qui peut y avoir sur nos activités humaines et qu'il faut bien évidemment anticiper. Et ce n'est pas juste quand il fait chaud qu'il faut sortir la carte magique de climatisation. D'autres propositions, évidemment, notamment dans les grandes villes, et nous, on souffre particulièrement à Toulouse, puisque vous savez qu'il y a un phénomène supplémentaire qui arrive dans les grandes villes, c'est ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains.
Oui, oui.
C'est tellement minéral et trop minéral que dans les villes, en particulier ici à Toulouse, sont surchauffées. Dès que vous sortez un petit peu, que vous allez à la campagne, on voit tout de suite l'écart de température qu'il y a dès que vous êtes même sur la première partie de la campagne proche de Toulouse. Là, c'est une question de construction et d'aménagement de la ville. Et là, il y a une solution qui est longue à mettre en place sur le long terme, mais sur laquelle il faut oser aller. c'est la végétalisation. Mmh. Et pourquoi je dis qu'il faut oser aller vers ça ? Parce que qui dit végétalisation dit espace de pleine terre, pour mettre des arbres en pleine terre et non pas des arbres en pot comme fait la majorité municipale aujourd'hui. Les arbres en pot, ça ne fonctionnera pas. Il faut les arroser, il faut on les déplace, ça, c'est sûr que ça a un côté facile pour certaines activités, mais ce n'est pas ça qui va nous procurer de la chaleur. Il faut des arbres de pleine terre, donc il faut débitumer, il faut enlever du bitume. Qui dit enlever du bitume, il faut retirer de la place à la voiture. La réalité, elle est là. Il faut avoir le courage de le dire. Nous, dans la campagne électorale, on a eu ce courage-là. Et on avait un projet qu'on avait appelé l'étoile verte. Et de dire, par exemple, commençons par les boulevards où on a des contre-allées qui sont très larges, où on a des doubles voies, où on a la capacité d'enlever, de débitumer et de mettre de la végétalisation massivement.
Alors, je crois que, concernant, bon, puisque vous parlez de ce qui se passe à Toulouse, il y a déjà un plan qui est en cours pour débitumiser, puis il y a le ZAN aussi qui fait que le zéro artificialisation nette, il faut le faire de toute façon, avec la difficulté tout de même qu'on est dans une ville qui grossit beaucoup parce qu'on reçoit chaque année 5 à 6 000 habitants à Toulouse, 9 à 10 000 dans la métropole. Donc, comment on fait pour mener tout ça de front ? Je sais pas, vous, Lucas Duval, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, y aurait beaucoup à faire, parce qu'en réalité, c'est pas juste avec une mesure ou un plan particulier qu'on va en tout cas solutionner ou débuter un début de solution.
Parce que, encore une fois, les gens qui arrivent à Toulouse, il faut les loger aussi.
Absolument.
Mais il faut qu'ils puissent circuler.
Mais, ou peut-être qu'ils puissent se déplacer plutôt que circuler.
Ouais. Oui, enfin bon, c'est ce que je voulais dire.
Oui.
Mais circuler, c'est pas forcément
voiture. Absolument. Mais juste d'abord, pour revenir sur le phénomène d'îlot de chaleur urbain, la métropole a installé des capteurs dans plusieurs endroits de la métropole toulousaine. Il s'avère que j'en ai un qui est juste à côté de chez moi, donc quand même, je peux voir de manière très précise la température qu'il fait dans l'air extérieur chez moi. Et en fait, il s'avère, donc moi je suis vers Bonnefoy, Marengo, donc un quartier qui est particulièrement exposé à ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, avec la gare, qui est du coup à une emprise énorme minérale.
Oui, puis qui est effectivement très artificialisée, très minérale.
Absolument, hein, parce que c'est une gare.
Ouais, on pourrait penser même le quartier. Ouais.
Absolument. Le quartier en lui-même, c'est des bâtiments sur des bâtiments sur des bâtiments. Il y a le canal du Midi, mais ça fait presque rien en réalité sur le ressenti et sur la température réelle. Et sur ce quartier-là, qui du coup, on le sait, la métropole a des données, donc les élus de la métropole ont des données, pour se dire qu'est-ce qu'on va faire pour changer profondément la vie des gens et qu'ils puissent respirer un peu mieux. Eh bien, la réponse à ça, de la part de Jean-Luc Moudenc et de son équipe, c'est écoutez, on va raser des immeubles, des habitations, des commerces sur l'ancienne avenue de Lyon. On pourrait se dire, on va mettre un parc, on va faire un truc bien. Non, non, on va construire des bâtiments en R+7, R+8, R+10 pour continuer à densifier. Mais ils nous disent, attention, on va mettre des petits trucs de terre. Vous allez voir, ça va être magnifique. Kaufmann Broad, ils vont nous faire ça super bien. Mais en fait, du coup, ils ont beau dire qu'ils ont des plans et des plans. Je crois que leur plan s'appelle Toulouse plus fraîche, il me semble.
Oui, oui, ça c'est justement pour les périodes de canicule.
Absolument.
Alors après, il y a des choses qui sont faites
absolument.
Au long cours.
En fait, ils ont beau dire qu'ils ont des plans. Peut-être qu'effectivement, sur le papier, ils ont des plans. C'est possible. Peut-être qu'ils se disent qu'ils font bien. Mais dans la réalité des faits, ils font tout l'inverse de ce qu'ils disent. Il y a une grande zone. Peut-être qu'Hélène pourra m'aider.
Excusez-moi, je ne voudrais pas qu'on parte sur du local parce que l'on
parle
de national.
C'est
pas le but de l'émission, c'est vraiment l'actualité nationale. Je vous dis ça aussi parce que j'ai personne en face de vous, la majorité municipale, pour répondre. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc je ne voudrais pas que ce soit quelque chose où on tape sur la municipalité.
On va rester sur
là, on parle de ce qui se passe en France. Que faut-il faire en France ? Parce que ce qu'il faut faire à Toulouse, il faut le faire ailleurs, je suppose.
Bon, eh bien, alors moi, je vais donner une mesure un peu choc que le président du Parti radical de gauche, Guillaume Lacroix, avait posée sur la table. C'est qu'à un moment, il va falloir faire accepter ça aux gens, c'est que tous les centres historiques, tous, sans exception, des villes en France, qui sont classées par les Bâtiments de France et compagnie, si on souhaite qu'ils puissent rester vivables demain, eh bien on va devoir au moins en partie les modifier grandement, si ce n'est peut-être détruire aussi les bâtiments. Parce qu'aujourd'hui, en l'état, c'est impossible de dire qu'on va pouvoir rénover et qu'on va pouvoir adapter ces centres-villes historiques au réchauffement climatique. Ou alors on en fait des musées. Mais alors dans ce cas-là, c'est pas comme ça qu'on va accueillir 7 à 8 000 personnes par an dans Toulouse. Bon, Hélène l'a dit après sur le fait de végétaliser, c'est une nécessité. Et sur ça...
si on parle de Toulouse, il y a un plan de végétalisation en cours, mais je pense que ça existe dans beaucoup de grandes villes.
Oui, là, je parlais de manière générale.
Mais justement, ça veut dire qu'il faut encore augmenter la cadence par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Il faut planter encore plus d'arbres, faut encore plus désartificialiser, débitumiser.
En fait, je pense qu'il faut juste penser la ville différemment. Et c'est-à-dire... on va arrêter de se dire, si je veux mettre des immeubles ici, il faut que je mette une route en 2x2 voies pour qu'effectivement il y ait des gens qui viennent ici. Non, il faut qu'on arrête de faire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut une voie d'accès pour accéder à un immeuble, c'est sûr. Mais au lieu de faire une 2x2 voies, eh bien, on va mettre des arbres en pleine terre, elle l'a dit, on va mettre des espaces ombragés, on va faire des pistes cyclables et on va surtout développer des modes de transport alternatifs. Parce qu'aujourd'hui en ville, je ne sais pas les chiffres exacts, mais... La voiture représente un pourcentage de l'air chaud que nous respirons, on va dire. Et en supprimant, on va dire, la place de la voiture en ville, en réduisant grandement la place de la voiture en ville, en mettant en place des transports en commun qui soient efficaces, qui soient attractifs, que ce soit par leur qualité, mais aussi par leur prix, c'est comme ça qu'on va faire en sorte que les gens puissent se dire « Bon, je vais peut-être me laisser ma voiture, alors soit chez moi si j'habite en ville, soit en périphérie de la ville, parce que j'ai des transports efficaces qui me permettent d'aller au centre-ville.
De la périphérie au centre.
C'est ça. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra le faire. Regardez, en Espagne, les ZBE, ils appellent ça les zones de basse émission, elles sont très restrictives. Ce n'est pas une petite pastille.
Ce n'est pas nos ZFE tels qu'on envisage de les faire.
En mode, oh là là, attention, on va vous mettre une petite amende. Non, c'est très restrictif. C'est-à-dire c'est des amendes qui peuvent aller à plusieurs centaines d'euros si on ne respecte pas. C'est ça, c'est dissuasif. Mais ils ont des réseaux de transport qui permettent aujourd'hui, de dire « Ok, je laisse ma voiture en périphérie et je vais en ville. » C'est une des pistes.
Alors, allez-y.
Pour compléter sur la végétalisation, effectivement, ce n'est pas assez ambitieux. Il y a beaucoup de villes écologistes qui ont quand même bien avancé là-dessus. Hein. L'exemple de Lyon, de Strasbourg, on fait beaucoup de choses. Et il faut continuer dans cette dimension-là. Il faut aussi penser le patrimoine végétal. L'erreur que l'on fait très souvent dans la ville, c'est qu'on pense d'abord le patrimoine architectural. Et si pour construire à tel ou tel endroit, il faut couper 2 ou 3 arbres, mais ce n'est pas grave, on les coupe. C'est fini, ça. Il faut arrêter. Il faut imaginer que les arbres aujourd'hui, ces arbres qui ont 50...
Donc il faut privilégier l'arbre par rapport au patrimoine. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Ce que je suis en train de dire, c'est quand on projette un nouveau projet, souvent de construction, on se dit, pour faire tel projet, on sera obligé à cet endroit-là de couper 2 ou 3 arbres qui sont déjà là. Mais ce n'est pas grave, on nous dit, on en coupe 3, mais on en replantera 9. Souvent, c'est 1 pour 3. On dit, on en coupe 1 et on en replantera 3. Mais un arbre qui a 50, 60, 70 ans, qui a déjà vécu un certain nombre d'épisodes climatiques, qui est déjà donc résistant, voire résilient, si on le coupe, et même si on en plante 3 petits, et même des essences qui sont soi-disant résistantes, puisqu'aujourd'hui, on plante des essences quand même pour essayer de permettre à ces arbres-là de supporter des canicules telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est pas garanti qu'ils survivent. C'est pas garanti qu'ils... Et tout ce qui nous procure comme bien-être en termes d'ombre, d'évapotranspiration, c'est très bien que quand on est sous un arbre ou sous un parasol, la température n'est pas la même. On le ressent tous, très clairement. On sait bien que c'est beaucoup plus frais sous un arbre. Donc, il faut privilégier ces arbres-là qui sont existants et il ne faut surtout pas dire, c'est pas grave, je veux que j'en coupe un, puis j'en planterai 3 ou 4. Ça, il faut arrêter. C'est des raisonnements très mathématiques, très, on va dire, quantitatifs, alors qu'il faut aujourd'hui raisonner en qualitatif. Autre mesure, puisque vous nous lanciez là-dessus, pour trouver des solutions, ce qu'on appelle le phénomène de l'albédo. Ça, nous, chez les écologistes, sur le plan national que l'on a présenté en conférence de presse ce matin, on a la proposition de dire qu'il faut le plus possible faire en sorte qu'on ait des toitures claires. Vous savez, quand on a des vêtements qui sont blancs, on a moins chaud.
On réfléchit,
la chaleur.
Alors que le noir l'absorbe.
Exactement.
On le concentre.
Et donc, on le vit, nous, dans nos vêtements.
C'est pareil pour un sol qui est noir.
Exactement, c'est pareil pour le bitume. Donc, toutes les toitures, partout où c'est faisable, où on peut repeindre en blanc, où on peut mettre des matériaux de couleur claire, ça empêche d'emmagasiner de la chaleur dans les bâtiments. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les plans albédo. Hein, c'est le phénomène de l'albédo, ça. C'est des choses qui peuvent être faites également et qui devront être faites. Ça permet aussi ce phénomène, cet albédo, ça permet aussi, pour lutter contre ça, c'est d'avoir des revêtements réfléchissants. On réfléchit maintenant à quel type de revêtement on met au sol pour éviter qu'il soit trop sombre, pour trop emmagasiner la chaleur, et surtout dans les villes où on a encore plus chaud quand on est après une journée comme on a eu aujourd'hui. Le chiffrage, nous, quand on reprend tout ça, le plan Albedo, la végétalisation massive des villes, la débitumisation des sols, tout ce plan global, ça a été chiffré, nous on dit, qu'il faut 7 milliards d'euros d'investissement public supplémentaires chaque année jusqu'en 2032. Voilà l'investissement et l'effort qu'il faut consentir pour, j'ai envie de dire, tenter le plus possible de s'adapter à ces conditions. Alors, à venir.
Ça, c'est dans un pays qui est très endetté, comme vous le savez bien.
Oui.
Donc, ça veut dire qu'il y a des choix politiques à faire et des priorités à donner. Ce qu'on mettra là, on ne le mettra pas ailleurs. Donc, il va falloir savoir où on l'enlève. Si on met 7 milliards là, où est-ce qu'on en enlève 7? Bon, ça, c'est bon, des arbitrages qu'il faudra faire de toute façon si on considère qu'effectivement, c'est une priorité vitale. Je dis bien vitale. Alors, il y a une question que je me pose aussi. Il y a la ville, la manière dont elle est construite, dont elle est structurée, mais il y a aussi la façon dont nous vivons la ville, dont nous vivons en ville. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des choses à revoir? Je pense par exemple à l'ouverture des commerces, des administrations. Est-ce qu'il ne faut pas décaler les horaires? Peut-être aussi dans les écoles, j'en sais rien. En tout cas, dans les périodes où il fera très très chaud, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut envisager? Parce que là, c'est vraiment une refonte totale, pas totale, en tout cas une partie de notre façon de vivre. Hélène Cabanne.
Oui, non, complètement. Il faut se rendre compte que ce dérèglement climatique va nous affecter profondément dans notre manière de vivre, dans notre façon d'appréhender et de vivre tel qu'on vivait jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire, et en particulier dans nos sociétés industrielles où on a une forte croyance dans le fait que toute technologie, toute innovation va nous sauver. Là aussi,
alors, c'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a des gens qui pensent, et ça, c'est pas nouveau, hein, c'est pas notre époque, que les méfaits de la technique vont être gommé, si on peut dire, ou atténué, en tout cas, par encore plus de techniques. Donc, il faudrait investir dans l'innovation, notamment, par exemple, pour les méfaits de la climatisation, le fait qu'on rejette l'air chaud à l'extérieur, ce qui va encore surenchérir le réchauffement climatique. Certains pensent qu'on peut innover, investir pour atténuer ces effets-là. Ça, vous pensez que c'est un leurre total? C'est un mythe?
Il faut faire attention à toutes ces innovations. Alors, comme toujours...
On peut faire les deux.
Tout n'est pas tout le temps... voilà, tout n'est pas à jeter non plus. Mais il faut faire attention à ce qu'on appelle la maladaptation. Si on prend une problématique de manière isolée, on voit qu'une toute petite partie du problème, on va potentiellement trouver une solution technologique ou autre. Mais il faut prendre ça dans la globalité. Le souci... Alors, c'est toujours compliqué, et ça, c'est la pensée complexe des écologistes, et c'est peut-être pour ça qu'on a parfois du mal
à convaincre
ou à percer dans les scrutins, dans les urnes. Mais je suis désolée, la problématique qui est face à nous, je le redis, elle est complexe. Donc, ce n'est pas juste une solution comme ça qui va répondre à ça.
Sachant que l'histoire de la climatisation, d'affronter les grosses chaleurs, c'est qu'une partie du problème. Il y a aussi, ce qui me semble... peut-être encore plus important, la question de l'eau. Moi, ça me semble
exactement
beaucoup plus inquiétant.
Vous avez raison. Et quand on parle de dérèglement climatique et qu'on dit qu'il faut lutter contre le dérèglement climatique, il faut regarder que l'ensemble des limites planétaires que l'on connaît autres sont menacées ou sont même dépassées. L'acidification des océans, la biodiversité qui s'effondre, les espèces d'oiseaux, on en parlait tout à l'heure avant de commencer les émissions, les oiseaux qui disparaissent. Tout ça, c'est un ensemble complexe et beaucoup plus large. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'attaque à un petit point, à un sujet, et qu'on va peut-être potentiellement trouver à la marge une solution qui pourrait peut-être être temporaire ou fonctionner, mais qu'elle peut créer plus de problèmes à long terme qu'elle n'en résout à court terme. C'est ça qui est compliqué à expliquer aux gens. Et c'est ça qui est compliqué dans l'écologie et dans l'écologie politique. Mais malheureusement, on n'a pas d'autre choix que d'y être confronté aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que sur la manière de répondre à ces problématiques environnementales, il faut avoir une pluralité de propositions. Il faut faire attention à cette tentative qu'on appelle de technosolutionnisme où on nous dit que par l'IA, on nous dit que par la géothermie, on nous dit qu'on va trouver des solutions. Attention, on a tout le temps fait comme ça jusqu'alors et ça nous a toujours amené dans le mur. Parce que pourquoi? Ces solutions, ça nous permet de quoi? Ça nous permet surtout de ne pas nous poser les questions, j'ai envie de dire, à la racine. Les questions à la racine, c'est la question de notre mode de vie. Voilà, il faut le dire.
C'est la question que je posais aussi.
C'est notre mode de vie, de production et de consommation. Et quand on pose ces questions-là, oui, c'est, ça bouleverse dans nos sociétés, individuellement et collectivement, mais il faut qu'on se les pose, parce que de toute façon, si on ne les pose pas, au rythme actuel où vont les choses, ce sont des événements climatiques violents où on va être percuté de plein fouet et on n'aura pas le temps de réagir et ça va se solder par des décès, par des gens malades. C'est déjà une réalité, ça le sera d'autant plus. Et je rajoute une dimension supplémentaire hein, qui complexifie encore la chose, c'est que tout le monde n'est pas à égalité non plus dans la manière de vivre une canicule comme on vit aujourd'hui. Quand vous êtes dans certains quartiers populaires, vous êtes dans des bâtiments très mal isolés avec du bitume partout tout autour, c'est pas la même chose que d'avoir sa résidence secondaire à proximité des Pyrénées en altitude. Tout le monde le comprend très bien. Donc vous avez une couche d'inégalité sociale qui se rajoute par-dessus, inégalité environnementale, inégalité sociale. Donc comment on fait pour changer de mode de vie sans laisser les gens déjà les plus précaires, les plus en difficulté au bord du chemin?
Oui, lorsque vous disiez aussi, il y a un autre aspect que je vois, est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question de redéployer notre population sur tout le territoire, notamment dans des campagnes qui aujourd'hui sont au contraire désertées, alors qu'on se concentre dans les villes où c'est là justement qui fait le plus chaud et où c'est le plus compliqué de trouver des solutions. Mais là aussi, ça nécessite des décisions qui vont bouleverser toute notre société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Lucas Duval.
Je suis assez d'accord avec Hélène Cabanne, pour ne pas dire 100% d'accord. Effectivement, comme c'est un problème global, on ne peut pas juste regarder un pan du problème et dire qu'on traitera le reste plus tard, parce que plus tard, ça sera trop tard. Et c'est peut-être même déjà trop tard.
Si je résume ce que a dit Hélène Cabanne, c'est que là, c'est reculer pour mieux sauter, si on ne fait rien.
Absolument.
Ou si on se contente de faire des...
C'est ça, faire des mesurettes, de mettre des pansements, voilà, et puis on verra plus tard. Mais c'est par contre, la question, effectivement, la question sociale, du réchauffement climatique, et même plus largement, de comment est-ce qu'on vit... avec la chaleur, avec le froid, avec les événements climatiques, c'est une vraie question. Les associations qui viennent en aide aux personnes sans-abri, elles le disent, les moments où il y a le plus de morts parmi les personnes sans-abri, c'est pas pendant l'hiver, c'est pendant l'été, quand il y a les canicules. Et ces personnes-là sont les premières aujourd'hui qui sont face à la canicule et qui, encore plus que quelqu'un qui serait dans son appartement surchauffé, mais qui aurait un ventilateur de fortune, ces personnes-là, elles sont soumises aux aléas météorologiques, n'ont pas de possibilité de se rafraîchir, et en fait sont laissées, comme Hélène l'a très bien dit, sur le bord de la route. Et on ne peut pas accepter en tant que société, de manière générale, mais encore plus dans des cas extrêmes, de laisser quelqu'un sur le bord de la route. Donc oui, il faut traiter la question à la racine. Et en fait, on se rejoint là-dessus. Bon, après, on se rejoint là-dessus. Bon, je fais une toute petite digression, mais la racine, ça vient de radiculus en latin. Les radicaux, ça vient également de là.
C'est la racine, oui.
Parce qu'on essaye, en tout cas, d'aller à la racine des choses plutôt que d'essayer de saupoudrer de mesurettes magiques. Voilà. Donc, je pense que...
Oui, pour conclure très rapidement, s'il vous plaît.
Très rapidement, pour rebondir sur l'histoire de l'aménagement du territoire, en fait. Parce que ce dont on parle, votre question, elle revient à ça. Il existait, à une époque, des services de l'État qui avaient pour ambition de projeter et de préparer les territoires à un certain équilibre des territoires. Ça n'existe plus. Ça, c'est des choix politiques aussi qui ont été abandonnés. C'est des réalités qui ont été abandonnées. Et c'est une erreur. Parce que moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus résilient dans des campagnes. On a une sensibilité écologique dans les campagnes qui est forte, contrairement à ce que certains veulent
laisser croire. Parce qu'on est directement en contact de la nature.
Exactement.
Des saisons. En ville, on ne voit pas passer les saisons.
Et des saisons. Voilà, à l'automne, vous allez ramasser les champignons.
Ouais, ouais,
ouais. À l'hiver, vous voyez tomber les feuilles. En ville, vous ne voyez pas tout ça. Vous ne vous rendez pas compte de tout ça.
C'est pas d'arbre pour voir les feuilles, donc.
Voilà, il en manque. Non, tout à fait.
Quand on vient de la campagne, on le voit encore. Mais parce que, voilà.
Et justement, nous pensons, nous les écologistes, que ce lien entre l'écologie et la ruralité est important. D'ailleurs, j'en profite et je fais la promotion. Ce week-end, il y a les universités des ruralités écologistes qui ont lieu à Gaillac, non loin de Toulouse, où on va parler de tous ces sujets et de l'écologie au sein de la ruralité.
Bon, on va clore ce débat, et il y a encore beaucoup de choses à dire, on l'a compris, puis ça vous passionne, et c'est normal. Il y a des propositions de loi, donc, pour généraliser la climatisation dans certains établissements qui sont proposés, donc qui vont être discutés, à l'Assemblée nationale. Donc, bon, le débat va se poursuivre dans les semaines et les mois à venir. En tout cas, moi, ce qui me semble, c'est qu'il est probable, il serait souhaitable que la stratégie adoptée pour affronter les périodes de canicule ne soit pas éludée dans les programmes des candidats à la présidentielle de 2027. Je pense que tous devront se prononcer là-dessus. Nous faisons la pause dans cette émission. On se retrouve en direct dans une vingtaine de secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Un retour au direct avec les deux invités de cette émission. Hélène Cabanne, conseillère municipale de Toulouse, conseillère métropolitaine de Toulouse Métropole, membre du parti Les Écologistes, et Lucas Duval, membre de la LICRA et du Parti Radical de Gauche. Après le meurtre de Liana et les révélations concernant le parcours de son assassin présumé, une mission d'inspection a été rapidement lancée à la demande du ministre de la Justice pour déterminer les défaillances et les responsabilités dans la chaîne judiciaire. Les rapporteurs ont publié leurs conclusions en début de semaine et ils ont pointé de nombreux ratés de la part des enquêteurs, des gendarmes et du parquet, le tout étant résumé en une phrase: l'urgence n'a pas été prise en compte. La publication de ce rapport a amené le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux à demander des enquêtes administratives et à prononcer de premières sanctions contre le directeur d'enquête et le commandant de la compagnie de gendarmerie de Condom, idem pour le substitut du parquet d'Auche. Alors vous qui avez pris connaissance des grandes lignes de ce rapport et des loupés et responsabilités qu'il pointe, est-ce que vous considérez que les sanctions prononcées sont légitimes, dans la mesure où ce serait en effet avant tout des défaillances individuelles qui ont mené à cette tragédie, ou estimez-vous que c'est notre système en général, et notamment notre système de protection qui est défaillant, par manque de moyens ou parce qu'il est mal organisé ? Lucas Duval, alors je précise que vous êtes originaire de Florence.
Absolument.
Vous êtes très concerné, et que, malheureusement.
Et qu'une de mes cousines, a priori, était dans la même classe que la jeune Liana. Bon, effectivement, il y aurait donc des responsabilités individuelles dans les différents niveaux de la chaîne de décision qui a dans une affaire normale. Bon, c'est normal que des personnes soient sanctionnées, il me semble, hein, en tout cas, quand il y a des fautes qui sont commises.
Avec bien, les conséquences qu'on connaît.
Ah, c'est ça, avec les conséquences dramatiques qu'on connaît, eh bien, c'est normal qu'il y ait des personnes qui soient sanctionnées si elles ont fait des erreurs. Mais pour autant, il me semble qu'on est quand même face à une défaillance un peu plus générale du système. Je m'explique. Il me semble que les magistrats disent qu'effectivement, alors ils ont eu pour consigne, quand il y a une affaire qui touche un ou une mineure, eh bien que ça doit être sur le haut de la pile. Mais a priori, il y a quand même beaucoup de dossiers qui sont censés, selon les circulaires du ministère de la Justice, se retrouver en haut de la pile. Et qu'en fait, quand tout devient urgent, ben finalement, il n'y a plus rien qui est finalement urgent. Alors, du coup, ça veut dire qu'il y a, en tout cas politiquement ou administrativement, quelque chose qui dysfonctionne. Concernant, du coup, la responsabilité individuelle, oui. Mais en tout cas, je pense, si j'avais été à sa place, si j'avais été ministre de la Justice à ce moment-là, j'aurais sûrement moi-même tiré des conséquences individuelles de ce qui s'est passé, et au moins par dignité, j'aurais démissionné de mon poste de ministre de la Justice, parce qu'on ne peut pas, en tout cas, encaisser la chose, dire devant les caméras, devant la famille, que c'est un drame, que ça ne se reproduira jamais, mais en même temps, ne pas tirer de conclusions individuelles. Quand on est responsable politique, on est responsable.
Même si et si on peut dire le réceptacle de toute une chaîne de décisions qui a été prise depuis plusieurs ministres de la Justice successifs, et qu'il n'est pas forcément comptable de ce qu'ils ont fait ou pas fait, d'ailleurs.
Non, bah en tout cas, Emmanuel Macron est au
commandement. Parce qu'il n'est pas ministre de la Justice depuis 10 ans.
Emmanuel Macron, oui, après, il a été ministre de l'Intérieur pendant une paire d'années, ouais, aussi. Donc, si ce n'est pas la justice qui est responsable, c'est peut-être au niveau de l'Intérieur qu'il est responsable. Mais au-delà de ça, c'est, on va dire, la majorité macroniste de laquelle viennent les ministres successifs qu'il y a eu autant à la justice qu'au ministère de l'Intérieur, qui, depuis 9 ans, sont aux manettes de la France et qui, en tout cas, pour une grande partie, sont responsables des différents dossiers qui sont censés être urgents et qui, finalement, il n'y a plus rien d'urgent. Et puis, c'est surtout eux qui, même s'ils vous diront le contraire, ils diront qu'ils ont augmenté comme jamais les moyens de la justice, etc., et même les moyens de la police, de la gendarmerie et compagnie, eh bien, c'est quand même eux qui votent les budgets de la France et qui donnent les directives politiques, on va dire. Donc, ils sont comptables de ça. En tout cas, si j'avais été à la place de Gérald Darmanin, j'aurais donné ma démission.
Ouais. Alors, ce n'est pas ça qui va résoudre, par contre, le problème auquel la justice est confrontée, et la chaîne judiciaire dans son ensemble. Hélène Cabanne, quelle est votre vision des choses ?
Moi, j'ai d'abord envie d'apporter mon soutien aux magistrates, aux magistrats et au personnel de la justice qui œuvrent en France comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Alors, il est normal que dans une démocratie, on s'interroge sur la manière dont la justice est rendue, dans la manière dont elle se fait. D'ailleurs, quand un jugement est rendu, c'est un jugement au nom du peuple français. Oui. Donc, il est normal qu'on interroge dans une telle situation aussi dramatique qui a bouleversé notre pays, qui n'est pas une situation isolée. J'y reviendrai après.
Non.
J'aimerais en dire un mot après. Malheureusement, non. C'est même systémique. Dans ce cas-là, qui a bouleversé la France, compte tenu de toute l'histoire que tout le monde connaît maintenant de cette petite Liana.
Et de son meurtrier, présumé, je dis bien présumé encore, parce que pour l'instant, il n'a pas été jugé coupable. Mais bon, il y a quand même un faisceau de présomption important qui va vers lui.
Il est normal que... il y a une enquête qui a été diligentée, et qu'on comprenne ce qui s'est passé quelque part dans les dossiers entre Toulouse et Auch, parce que c'est quand même là où
il y a bien eu quelque chose.
Par contre, pointer du doigt une seule et unique personne, ou deux ou trois, en disant ce sont elles les responsables, point, circuler, il n'y a rien à voir, ça c'est pas admissible de la part d'un ministre de la Justice. Il est aussi responsable de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. À force de dire que tout est urgent, puisqu'il faut, il faut aussi traiter des problèmes de trafic de drogue, il faut traiter des problèmes de pédocriminalité, il faut traiter une quantité astronomique.
De la délinquance tout court.
Tout est prioritaire et finalement plus rien ne l'est. Donc les directives.
Alors c'est ce que disent effectivement les magistrats, disent qu'il y a un trop plein de priorités à gérer, en face duquel on a un manque criant de moyens.
Voilà. C'est ça.
Voilà leur défense.
Et quand on entend tout de suite, quelques jours après la révélation de cette affaire, M. Macron qui tout de suite se dédouane en disant « Je ne veux pas entendre parler de questions de moyens », eh bien, je suis désolée. La question, si on va parler de moyens. Parce que quand on compare les nombres de magistrats qu'il y a par habitant en France par rapport au nombre de magistrats qui existent dans d'autres pays européens, on est particulièrement à la traîne. Donc, il y a bien une question de moyens et de qu'est-ce qu'on veut faire de notre justice en France et dans quel délai elle doit être rendue. Parce que la question du délai est importante aussi pour les victimes. Quand vous passez des années et des années à attendre un procès qui n'arrive jamais, laissez-moi imaginer la détresse dans laquelle sont certaines victimes qu'il faut passer par des procédures administratives longues, compliquées, et vous revivez l'événement 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans plus tard, si ce n'est pas plus long. Il y a une question à la fois d'efficacité de la justice qui doit se poser, c'est normal dans un pays démocratique, de responsabilité quand il y en a et c'est normal de les pointer, mais il y a une responsabilité aussi politique. Et là, que ce soit messieurs Macron ou Darmanin, ne peuvent pas se dédouaner de cette responsabilité-là. Un autre exemple, pourquoi monsieur Darmanin ne peut pas se dédouaner de cette responsabilité? Il dit que ce n'est pas une question de moyens. Sauf que la Civise, la commission donc, qui a été mise en place indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a fait toute une série de préconisations et de recommandations. Il y en avait 17 qui étaient prioritaires. Ces recommandations sortent en 2023. Sur ces 17 prioritaires, seulement 3
ont été prises en compte.
Donc, il ne peut pas dire que, un, il ne savait pas l'ampleur du phénomène, et là j'y reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est 160 000 enfants chaque année victimes. C'est énorme. Donc le phénomène n'est pas isolé, le phénomène est d'ampleur, le phénomène est massif, il y aura de plus en plus de plaintes parce que les enfants parlent et on les écoute maintenant, contrairement à avant. C'est un peu, je dirais, le pendant du MeToo des femmes qui a commencé en 2017. On est en train de vivre le MeToo des enfants maintenant. La parole se libère et on écoute.
Surtout, elle est prise en compte.
Et elle est prise en compte.
Ce qui n'était pas forcément le cas avant.
Et voilà, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et on les écoute. Et donc, de ce fait, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de dossiers, de plus en plus de plaintes qui vont être déposées. Donc, il faut mettre des moyens en face, bien évidemment.
Alors, les moyens, très bien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'organisation? Parce que lorsqu'on regarde un peu ce qui est écrit dans ce rapport, il met en évidence ce qui aurait conduit au drame, ce serait, je reprends les termes, une rupture fatale dans la transmission des informations concernant donc le meurtrier présumé, Jérôme Barella pour citer son nom, dans cette affaire, le meurtrier de Liana. Donc il y aurait une rupture de transmission des informations entre le parquet de Toulouse et celui d'Auch, et de manière générale, il y aura un problème de transmission des informations entre toutes les institutions qui sont concernées par des affaires de ce genre, et c'est ce dont vous parliez, la NCABAN, donc les gendarmeries, la protection de l'enfance aussi, les parquets. Bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi une organisation à revoir? Pourquoi ça fonctionne aussi mal?
Je serais tenté de dire parce que la France fonctionne comme ça dans son administration. Tout fonctionne en silo, en fait. C'est-à-dire que On a une information à un endroit dans une administration, mais on n'est
pas
capable.
Qu'elle se perd.
C'est pas qu'elle se perd, c'est qu'en fait.
Qu'elle reste à un endroit.
C'est ça, c'est qu'en fait, elle est dans un endroit, sauf que si dans une autre administration, eh bien, on a besoin de cette information, ou en tout cas, si on cherche cette information-là, comme elle n'existe pas dans la dite administration, bon, eh bien, on ne peut pas savoir qu'elle existe. Bon, je pense quand même. Alors, il faudrait voir ce qu'en dit la CNIL, évidemment, sur
la protection de l'intelligence artificielle.
Sans parler d'intelligence artificielle.
Même ça, je veux dire, on doit avoir des moyens aujourd'hui pour que l'information circule très rapidement.
C'est ça. Sans parler d'intelligence artificielle. Juste une. Je ne sais pas, peut-être la CNIL dirait qu'il y a autre chose sur la protection des données personnelles. Mais on est quand même, je pense, capable de faire en sorte que si on tape le nom de quelqu'un dans un fichier, ben on sait à peu près tout de la personne. Bon, évidemment, avec des niveaux d'accès différents, ça c'est sûr et certain. On peut pas, évidemment, l'agent territorial de mairie pourrait pas savoir toute la vie d'une personne, évidemment. Mais je pense qu'on en est capable, en tout cas que c'est nécessaire. Mais c'est pas qu'au niveau de la justice, je pense. C'est au niveau à peu près de toutes les strates d'administration de l'État. Parce qu'il y a des redondances qui en plus, je pense, doivent coûter cher, autant dans le fonctionnement que dans le traitement, etc. Et qui, du coup, mènent à la fin à ce qu'il y ait des informations qui n'aient pas été communiquées à la bonne personne au bon moment.
Oui. Hélène Cabanne, sur ce point.
Oui, alors là aussi, j'ai envie de dire, quand on en est à se poser des questions, j'ai envie de dire, c'est déjà tragique, parce que ça veut dire qu'il y a eu un drame, c'est-à-dire qu'il y a un enfant... qui est mort ou qui est blessé, traumatisé à vie. Bien sûr qu'il faut se préoccuper de ces victimes-là et il faut, comme je le disais tout à l'heure, mettre les moyens de la justice, de la police pour traiter ces plaintes et pour traiter les problèmes et qu'il y ait un procès pour que les victimes puissent s'exprimer. Mais il faut revenir aussi à la genèse de ces affaires-là. Et aujourd'hui, dans le cas des violences sexuelles et sexistes, moi, j'insiste sur le fait que ces violences sont systémiques envers les femmes et envers les enfants dans nos sociétés. Et il faut revenir, une fois encore, là, je reprends ce que je disais tout à l'heure, qui est valable pour l'écologie, à la racine. Et il faut revenir sur l'amont. Il faut éviter le plus possible qu'on se retrouve devant des tribunaux face à un violeur qui a violé un enfant, qui est passé à l'acte, tout à fait. Donc il faut revenir en amont et là aussi se poser des questions sur notre société, sur la violence qui est exercée envers les femmes et envers les enfants. Il faut, dans ces cas-là, parler d'un certain nombre de choses qui existent déjà et qui devraient être plus mises en place en termes de prévention. Il existe notamment des cours d'éducation à la vie sexuelle et affective qui est proposé et qui est obligatoire normalement pour les enfants. Évidemment, le contenu est adapté à leur âge pour expliquer en quoi ça consiste, mais qui comprennent bien ce qui est autorisé ou pas d'un adulte sur un enfant. Ça, si on ne l'explique pas à un enfant, comment peut-il le savoir ? Il peut pas comprendre ce qui est qui relève de la normalité ou ce qui relève de l'anormalité. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas faites aujourd'hui en France et qui devraient l'être, par exemple ces cours d'éducation, qu'il faut mettre en place. Et il faut oser parler de ces sujets-là, parce que c'est des sujets compliqués, c'est des sujets tabous, c'est des sujets qui touchent beaucoup de familles, de familles, qui a un coût énorme pour la société aussi, puisque ce sont des gens qui se murent parfois pendant des années et des années dans le silence, qui se construisent comme ils peuvent tant bien que mal, et puis un jour ça va plus, un jour c'est la dépression, un jour c'est l'alcoolisme, un jour c'est on se raccroche à ce qu'on peut pour vivre. Très honnêtement, tous, j'imagine et toutes, on a autour de nous des gens qui sont dans des profonds traumatismes, probablement liés à des histoires de ce type-là. Ça coûte cher individuellement à ces gens-là qui sont des victimes à vie et qui souffrent à vie. J'entendais quelqu'un qui parlait, un père d'une enfant qui avait été abusée, que sa fille, de toute façon, elle serait victime et malade à vie. Alors que le violeur en question, bon, pour le coup, il avait été écroué, mais il va faire, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans de prison. Et pour le coup, il a eu un procès et il a été condamné. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, très peu de violeurs se retrouvent condamnés. Hein. Les plaintes n'aboutissent pas. Donc, il y a une problématique aussi de ce point de vue-là. Tout ça pour dire qu'on doit là aussi partir de l'origine de la problématique. Et il faut faire de la prévention vis-à-vis des enfants. Il faut arriver à avoir une société qui soit beaucoup plus sécuritaire, dans le sens de sécuriser pour les femmes, pour les enfants. Et il faut avoir cette dimension-là qui est importante, de la prendre de manière globale.
Vous êtes d'accord, Lucas Duval, ça c'est quelque chose dont il faut faire une priorité aussi?
Oui,
ça fait beaucoup
après
de priorités.
C'est ça, ça va faire beaucoup de priorités. Bon, on a donné deux ce soir, mais oui, la prévention, évidemment. Autre sujet, évidemment, qui est lié, c'est les réseaux sociaux.
Oui.
C'est dramatique ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut que la France, si ce n'est l'Europe, soit un exemple là-dessus. Interdiction aux mineurs, mais interdiction pure et dure. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire oui, alors à un certain âge, machin. Non, à un moment, il y a tellement de risques, et on les connaît, les risques. C'est documenté autant par des psychologues, par des sociologues, que même par des économistes. Enfin, il y a de tout. On les connaît, les risques. Mais disons qu'on se plie devant les GAFAM, alors que si on souhaitait, en tout cas pour la société, mais aussi pour les individus, en tout cas pour les individuellement, si on souhaitait faire du bien, je pense que la question des réseaux sociaux serait une vraie question.
Alors il y a une question aussi, quelles limites on pose à la liberté individuelle dans certains domaines, mais bon, c'est un vaste sujet, on ne va pas faire le sujet du bac de philo aujourd'hui. L'émission approche de son terme, on va vous donner chacun quelques instants pour partager vos coups de gueule ou vos coups de cœur, avant qu'on rende l'antenne. Hélène Cabanne d'abord.
Mon coup de gueule, moi, porte sur cette affaire, justement, Liana. Moi, je suis assez traumatisée, comme beaucoup de femmes, d'abord, et d'enfants aussi, je pense, par cette histoire. Ça nous touche profondément. J'espère qu'il y aura un avant et un après. C'est malheureux de dire, mais j'ai envie de dire que c'est le meurtre de trop. Trop de féminicides en France. Trop d'enfants abusés et qui en meurent. Ça c'est mon coup de gueule, et donc je fais partie de ces femmes qui se réunissent tous les lundis soirs devant les tribunaux en France à 19h pour demander que ça change.
Lucas Duval, coup de cœur ou coup de gueule?
Je pense que c'est un peu des deux, vu la teneur des débats, mais on arrive peut-être enfin, on en a parlé très souvent ici, à ce que la loi sur la fin de vie puisse être enfin votée et qu'on puisse enfin accorder aux personnes qui le souhaitent l'ultime liberté de choisir dignement leur fin de vie comme elles entendent la dignité assez personnellement, mais qu'on aura toujours des détracteurs qui feront des manifestations, et les mêmes personnes qui étaient contre le mariage pour tous, et les mêmes personnes qui étaient contre l'avortement, qui tentent en tout cas de freiner des quatre fers ce
débat. On a le droit d'être contre quand même.
On a le droit d'être contre.
Et on a le droit de manifester.
Oui, mais disons que je ne suis pas d'accord avec eux.
Ça c'est autre chose.
Et que quand on touche à la liberté des personnes et qu'on n'impose rien aux gens, laissons le choix aux gens.
On va arrêter là-dessus. Cette 235e mêlée de l'info est terminée. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. Merci aussi à Coraline Camebrac, qui est la réalisatrice de cette émission, fidèle au poste presque tout au long de la saison. Elle a été très rarement absente, mais à chaque fois qu'elle était là, la technique c'était impeccable. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Merci bien sûr à celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Bon été, bonnes vacances à tous. On se retrouve bien reposés et tout bronzés à la rentrée. We'll be right back.